Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en ondes ce matin par Jacques Hubert. Nouvelle série donc consacrée au travail et aux nouvelles conditions dans lesquelles nous exerçons nos métiers. Demain, nous parlerons des travailleurs ubérisés. Mercredi, nous mettrons à l'épreuve les promesses de management heureux et son souci de bien-être dans les entreprises. Jeudi, enfin, plongé dans notre futur, nous parlerons des robots. Mais tout de suite, alors que le procès des anciens dirigeants de France Télécom, dont l'ex-PDG Didier Lombard se poursuit, et que les témoignages autour du harcèlement moral dont certains employés ont fait l'objet s'y multiplient, les poussant parfois au suicide, on évoque ce matin la question du burn-out, le mal du siècle.
Elle avait toujours ses trois téléphones portables avec elle quand elle travaillait. Et quand elle est décédée, elle tenait ce portable comme ça dans la main. Quand on l'a retrouvée morte, elle le tenait comme ça.
J'étais un outil de l'employeur, donc c'était tout à moi de prendre. La journée, quand j'allais au travail, tout n'allait pas. Le corps en lui-même, des palpitations, les nerfs, je me retrouvais dans une situation de stress. Notre cerveau est constamment en travail, la nuit comme le jour, comme tout le temps.
Je n'avais plus qu'une idée en tête, survivre à la journée au bureau. Je me répétais à longueur de temps que je devais tenir jusqu'au soir. Et puis au bout de 2 mois, un médecin généraliste guérisseur a posé le diagnostic de burn-out et m'a demandé pourquoi je n'étais toujours pas en arrêt maladie.
Burnout, karoshi, en japonais littéralement mort par dépassement du travail, surmenage professionnel, les dégâts de l'épuisement professionnel s'aggravent un peu partout dans le monde. Lundi 27 mai, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, annonçait l'entrée du burnout, un concept qu'on traduit souvent en français par épuisement professionnel, dans la classification internationale des maladies, avant finalement de se rétracter le lendemain. C'est une douche froide pour les partisans de sa reconnaissance qui militent depuis plusieurs années pour l'obtenir. Pour autant, il y a bien eu une avancée dans la reconnaissance du burnout. En effet, le lendemain, le 28 mai, un porte-parole clarifie la position de l'OMS. Le burn-out est passé de la catégorie facteur influençant l'état de santé à celle de phénomène lié au travail. L'organisation établissant donc un lien direct entre notre vie professionnelle et l'état d'épuisement psychique et physique que constate une part de plus en plus importante de la population. Se dirige-t-on donc vers une reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle? Et d'ailleurs, que recouvre exactement ce mot burn-out et que nous dit la démocratisation de ce terme quant à l'évolution de notre rapport au travail? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Philippe Zavieja. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'Université de Sherbrooke au Canada et puis membre de la Commission nationale santé et qualité de vie au travail de l'Association nationale des DRH. Vous avez dirigé le dictionnaire de la fatigue, mais également auteur du Burnout, le que sais-je, qui est paru aux éditions PUF. À nos côtés, en duplex de Bruxelles, Pascal Chabot, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, philosophe, professeur à l'école de communication et de journalisme de Bruxelles. Et vous avez notamment écrit Global Burnout, qui était paru aux éditions, aux presses universitaires de France. Je vais commencer avec vous, Philippe Zavieja. Comment est-ce que vous interprétez ces atermoiements de l'OMS et qu'est-ce qu'ils vous disent, selon vous, de la difficulté peut-être à reconnaître le burnout?
Je suis pas sûr que les atermoiements de l'OMS soient un événement en soi. Il y a probablement eu un petit souci technique du côté du service de presse de l'OMS.
Souci de communication?
Oui, en annonçant d'abord la reconnaissance comme maladie, ce qui a étonné le Landerneau de la santé au travail, et notamment de la santé psychologique au travail, avant de revenir en arrière pour apporter deux types de précisions quand même qui là sont plus intéressantes. Inscrire sa vision du burn-out dans une théorie qui est la théorie inaugurale, j'ai envie de dire, du burn-out, qui est celle qui a été développée par l'équipe de Berkeley depuis le début des années 70, donc avec un syndrome tridimensionnel que l'OMS rappelle, donc une extrême fatigue physique et psychique. Une perte d'énergie, dit exactement l'OMS, voire un épuisement. Deuxièmement, des phénomènes de distanciation et de je mets des guillemets, cynisme par rapport au travail, et troisièmement, une baisse de l'efficacité professionnelle. Ça, c'est typiquement la définition qu'on trouve dans les travaux de l'équipe de Berkeley, Christina Maslach. Et puis, la deuxième précision importante, c'est, comme vous l'avez rappelé, le cantonnement du terme burn-out à la sphère professionnelle. Donc, exit le burn-out maternel, exit le burn-out des collégiens. On a vu passer ces dernières années, y compris dans la presse scientifique, dans la littérature scientifique, des papiers de psychologues scolaires ou de médecins sur le psychologue des enfants, sur le burn-out des enfants, des ados, des collégiens. Donc tout ça va nous amener nous inviter à plus de clarté terminologique.
Et l'OMS nous invite à confiner ce terme dans le monde professionnel.
C'est ça.
Ouais. Pascal Chabot, que vous inspire ? Alors, j'ai parlé d'atermoiement. Philippe Zavigia nous dit non, c'est seulement un problème de communication. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Problème de communication, sans doute, au début, mais la question est de savoir de quoi ce problème de communication est-il le symptôme. J'ai l'impression qu'il y a, et sans être du tout dans les arcanes de l'OMS, ni instruit de ce qui s'y passe et des pressions qui peuvent s'y exercer, mais qu'il y a tout de même une divergence entre une nécessité, disons, intellectuelle de le reconnaître comme maladie, avec des guillemets, et puis, d'autre part, une quasi impossibilité économique et politique de le reconnaître vraiment, car enfin ce serait quelque chose comme un tremblement systémique s'il était reconnu comme maladie professionnelle au niveau budgétaire, au niveau des caisses d'assurance maladie, les impacts seraient colossaux.
Oui, donc, mais après tout ça, ce sont des conséquences pour les États, pour l'OMS, c'est les effets, peu importe pour l'OMS, en fond, c'est pas sa question à elle.
Ce n'est pas sa question directement, mais enfin, elle prend tout de même en compte, j'imagine, les avis des États et la réalité sur le terrain. En plus de cela, il y a des risques qu'on peut dire des risques d'effet d'aubaine ou autres. Donc, comme la plupart des États européens, par exemple, l'OMS a été prudente sur cette question, voire s'est rétractée. Avec cette chose étonnante qu'il s'agit d'une maladie où les questions de reconnaissance sont centrales et on voit que la reconnaissance de la maladie internationalement pose également problème. Cela étant, c'est vrai que dans ces atermoiements de communication, il y a certaines avancées qui ont été faites. D'abord mettre une nouvelle fois l'accent sur le problème, sur la question posée par sa reconnaissance, et peut-être si on ne va pas jusqu'à la qualification de maladie, insister en tout cas sur la nécessité de prévention, donc de prendre au sérieux par les employeurs et par les employés du problème.
En tout cas, vous allez jusqu'à la qualification de maladie. Philippe Zavigia, est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que le burn-out peut être considéré comme une maladie ?
Non, pas à mon sens. À mon sens, c'est ce que disait en d'autres mots Pascal Chabot à l'instant, on doit le considérer et en tenir compte dans les actions politiques de tout niveau que ce soit en tant que forme de souffrance. On a un anthropologue de la santé québécois qui parle d'idiome de souffrance, d'idiome de détresse, la façon dont la détresse, ici psychique, s'exprime. Je pense qu'on doit... Je suis même intimement convaincu qu'on doit en tenir compte, mais pas l'ériger au rang d'une maladie comme d'autres, notamment avec des modèles plus biologiques.
Qu'est-ce qui poserait problème scientifiquement ? En quoi est-ce que c'est difficile de qualifier le burn-out comme une maladie ? Scientifiquement, qu'est-ce qui pose problème ? Au niveau de la symptomologie, je ne sais pas comment...
La symptomatologie...
Symptomatologie.
Un vieil inventaire des manifestations cliniques qui a été fait dans les années 80 par deux chercheurs allemands qui comptait 134 manifestations cliniques différentes dans des cas de burn-out répondant à la définition à l'époque de Maslach, aujourd'hui de l'OMS, 134 manifestations cliniques, jamais aucune maladie connue, répertoriée et acceptée socialement comme telle, n'a autant de signes cliniques différents. On ne parle même pas de signes, les auteurs insistaient pour qu'on parle de manifestations. Ça veut dire que... Alors, Il n'est pas nouveau que, notamment en termes de maladies psychiques, on ait des manifestations très, ou des signes très différents d'un sujet à l'autre. 134, ça fait franchement beaucoup. Ce qui pose de surcroît problème, c'est qu'on a une grande hétérogénéité dans les terrains, on a une grande hétérogénéité dans les manifestations, on a une grande hétérogénéité dans la dynamique, dans la temporalité de ce syndrome. La seule chose sur laquelle on puisse être d'accord, ce sont un certain nombre de grands facteurs déterminants, encore faut-il, qui sont donc majoritairement liés au travail, mais pas exclusivement. Et c'est là que le bât blesse. C'est là que reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle serait faire preuve d'un esprit de simplisme, parce qu'il y a des facteurs extra-professionnels qui sont au moins aussi nombreux et importants que les facteurs professionnels.
Pascal Chabot, je voudrais vous entendre sur ce point-là, et puis ensuite on va avancer, essayer de faire un petit peu une histoire de cette idée-là du surmenage et puis du burn-out lui-même, voir ce qu'il y a derrière ce concept-là. Mais quand vous entendez, c'est Philippe Xavier Jacques qui nous dit, bon, d'un point de vue scientifique, c'est un peu compliqué de qualifier le burn-out comme une maladie, Pascal Chabot.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, et tout à l'heure je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une maladie sensu stricto. Ce n'est pas un terme que j'utilise, tout en sachant que une maladie est un construit psychosocial. On ne peut pas dire que le burn-out est une maladie comme on dirait que un triangle est une figure géométrique, n'est-ce pas? Il y a des enjeux qui sont des enjeux à la fois légaux et puis des enjeux de mentalité et intellectuels. Au-delà de ce que Monsieur Zawidja disait, il faut aussi dire que on est dans un contexte de travail, donc on est dans un contexte d'organisation, donc on est vraiment à l'interface entre des aspects psychologiques et des aspects sociologiques. Donc on est à l'interface entre ce qui peut dépendre de l'individu et ce qui dépend moins de lui. Et autant il était scandaleux, comme cela s'est fait naguère, de tout faire reposer sur l'individu en disant « mais peut-être y a-t-il une dépression latente chez vous ?» ou « peut-être familialement les choses ne vont pas si bien », exonérant alors la responsabilité des structures en faisant porter cette responsabilité uniquement par l'individu. Autant, d'autre part, il est trop important de dire que la responsabilité est uniquement organisationnelle. Il y a vraiment une sorte de rencontre entre ces deux sphères, ce qui fait de ce terme de burn-out vraiment un terme tout à fait hybride, avec une définition qui est une définition stricte, que M. Zawidja rappelait, mais également une définition sociale plus importante. Et si je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas dire que les très grandes fatigues parentales s'apparentent à quelque chose comme un burn-out parental, et que cette espèce de d'exacerbation des emplois de la notion est peut-être trop importante, il ne faudrait tout de même pas, sous couvert de rectitude des dénominations, exclure de la considération tous ces étudiants ou ces parents qui disent il y a quelque chose de l'ordre du trop. C'est pour ça, personnellement, je parle plutôt d'une pathologie de civilisation et des liens étonnants que notre civilisation a noués avec le trop, l'excès, avec la surcharge. C'est aussi un objet philosophique qui pose la question du sens du travail.
On y reviendra, parce qu'effectivement, dans l'introduction de votre livre, vous dites que le burn-out, c'est une maladie de civilisation, et je vous réinterrogerai sur ce point-là. On verra aussi ce qu'il en est de l'histoire de ce concept-là, et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais si je reste un tout petit peu pragmatique encore, Philippe Xavier-Jean, et qu'on en reste sur cette question de la reconnaissance, il se trouve qu'en France, c'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, le burn-out. D'ailleurs, Muriel Pénicaud, la ministre française de la Santé, l'a rappelé encore il y a quelques semaines, quelques jours, je crois que c'était début du mois de mai. Il y avait eu l'année dernière, en février, une proposition de loi qui avait été formulée pour reconnaître justement ce burn-out comme une maladie professionnelle. Ça avait été rejeté par l'Assemblée nationale. Il y a deux questions. Pourquoi est-ce que politiquement ça pose problème? Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce que économiquement ça pose problème? C'est-à-dire, faut aussi regarder quelles seraient les conséquences d'une telle loi, d'une reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, pour les employés, pour les employeurs, et peut-être pour la sécurité sociale, parce que c'est un agent qui rentre là complètement et qui est central dans cette équation.
Alors, ça pose un problème d'abord médical. Or, nous sommes dans une société de l'expertise qui explique qu'on est d'abord demandé à nos corps d'experts, en l'occurrence l'Académie nationale de médecine pour ce qui concerne la France, de se prononcer. Il y a eu un rapport en 2016 co-dirigé par Patrick Légeron, qui est un de nos meilleurs spécialistes français sur le stress, qui a rappelé qu'en l'état actuel des connaissances médicales, le burn-out ne pouvait pas être considéré comme un diagnostic médical, ce qui n'empêchait pas qu'il fallait en tenir compte et continuer à travailler sur le sujet. Ensuite, donc ça c'est pour la partie médicale, il y a une partie
politique. Vous hésitez.
Économique, médico-économique, puis politique, parce que une maladie professionnelle inscrite comme telle au tableau du code de la sécurité sociale change de financement. Elle n'est plus financée par le régime général de la sécurité sociale, mais par la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc directement par les employeurs. Ça, évidemment, ça pose un souci aux employeurs français. Et puis, peut-être de façon plus cryptique, ça pose un souci franchement politique, pas comme on le croit, mais parce que parmi ces employeurs, il y a aussi l'État. L'État est l'un des premiers employeurs français, c'est même peut-être le premier. C'est aussi le premier pourvoyeur de burn-out dans ses différentes fonctions publiques. On a tous en tête la fonction publique hospitalière. Elle se manifeste actuellement
en ce moment même,
avec
les
grèves des urgences. Mais c'est loin d'être un phénomène récent. On peut parler de nos forces armées, la police, les armées qui ont été mises à rude épreuve, de nos corps enseignants. Il faudrait aussi que les modifications législatives, si elles aboutissaient, et c'est la raison à mon sens pour laquelle elles n'aboutissent pas plus, contraignent l'État à dédommager pour les dégâts qu'il cause.
Donc des conséquences politiques et économiques. Pascal Chabot, faisons un tout petit peu d'histoire. Là, on parle de burn-out, de surmenage, de stress au travail. À chaque fois, il est question de malaise, de surcharge de travail. Depuis quand cette question apparaît-elle? À quand est-ce que remontent les premières littératures sur ce sujet? Et puis ensuite, on verra l'occurrence en particulier burn-out, parce que là aussi, il y a des choses à évoquer. D'abord, cette idée d'un surmenage au travail, quand est-ce qu'elle apparaît?
Elle apparaît avec le travail, je pense.
Évidemment, mais dans les littératures, quand est-ce qu'on commence à la penser comme une question vraiment très forte?
Mais dans un certain nombre d'écrits de l'Antiquité déjà, il y a des considérations sur le travail, la difficulté du travail. Il y a toujours eu dans la littérature sur le travail une mention de fatigue qu'il peut engendrer.
Mais est-ce que l'industrialisation va pas provoquer quelque chose de nouveau?
Évidemment, et massivement nouveau, avec ses rythmes, avec le fait que l'énergie de la machine, donc typiquement l'énergie thermodynamique, impose au corps humain, impose au corps musclé une énergie supérieure à ce qu'il est capable de donner, et on a, bon, ça c'est le grand moment marxien par exemple, on a alors une analyse des différences entre les capacités humaines et les capacités techniques, avec cette augmentation des cadences et l'augmentation des profits, le travail est mis en question comme étant possiblement pourvoyeur d'épuisement. Il l'était naguère lors du sevrage par exemple, autrement. Mais cette question-là se poursuit avec le fordisme, avec le taylorisme, avec la mise au centre du temps, le temps qui est le critère peut-être plus important que le travail lui-même dans le travail. Naguère, lorsqu'il fallait faucher un champ, on ne disait pas que ça devait prendre autant de temps, on le fauchait, et puis le temps était pour ainsi dire une conséquence dans une société où le temps était tout de même plus discret. Aujourd'hui, et depuis le fordisme, finalement, la valeur temps est centrale. Taylor met l'unité de temps au centre du travail. Alors là, c'est un moment historique qui est un moment historique majoritairement physique. C'est le physique du travailleur et le physique de la tâche à accomplir qui est visible, ce que Chaplin, dans les temps modernes, a bien rendu. On voit le corps de la machine et le corps humain face à face et se battant l'un avec l'autre. Avec la question du burn-out, comme toute notre civilisation, finalement, on passe dans un versant beaucoup plus psychique et on n'a pas encore trouvé le grand cinéaste qui aurait montré l'impact nerveux et psychique de d'être devant un tableau Excel toute une journée. Mmh. Donc il y a là clairement une histoire, et dans cette histoire, on peut lire les métamorphoses d'un problème qui n'est pas toujours le même, mais qui a un noyau quand même identique, ce noyau étant à la fois l'insatisfaction et l'épuisement dans le travail.
Philippe Zavieja, si on poursuit justement un tout petit peu l'histoire et qu'on regarde en particulier ce mot burn-out qui apparaît dans les années 1960, mais qui va finalement être conceptualisé avec un psychanalyste américain qui s'appelle Herbert Freudenberger, qui va définir vraiment les contours de ce concept. Est-ce que vous pouvez nous aider en quelques mots, Philippe Zavieja, à comprendre ce qu'il y a derrière, peut-être le définir en quelques mots?
Je l'ai fait tout à l'heure en vérité. C'est vrai que Freudenberger a lancé le premier ce mot dans la littérature psychologique en l'occurrence. Il avait déjà été utilisé burn-out dans un roman d'un auteur, je crois que c'est Julien Green, dans un roman qui s'appelle Burnout Case, qui se passe dans une léproserie, un tout petit peu avant, donc dans un contexte non lié au travail. C'est Christina Maslach, surtout à Berkeley, comme je le disais tout à l'heure, qui a donné ses lettres de noblesse à ce concept, en lançant des grandes études, en le définissant comme un syndrome, donc en trois dimensions que j'ai rappelé tout à l'heure, en développant une analyse des causes et des facteurs déterminants, en développant un instrument de mesure, donc une échelle de mesure qui a aussi contribué au succès, dans la mesure où on avait l'impression, puisque la science psychologique aujourd'hui est très fétichiste du chiffre, que le phénomène était quantifiable. Et du coup, aujourd'hui, 80-90% de la littérature sur le burn-out utilise ce concept-là. Il y en a d'autres, il y en a une cinquantaine de définitions du burn-out, mais je le répète, Maslach, c'est un syndrome en trois dimensions, l'épuisement physique et psychique, la dépersonnalisation, le cynisme, et puis la baisse du sentiment d'accomplissement personnel.
Sur Herbert Freudenberger, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce terme, quand il l'utilise, il est en train de travailler dans des cliniques de la côte ouest américaine, et donc ce sont les éducateurs, les infirmiers qui parlent de leur état de surmenage et qui utilisent précisément ce terme. Donc on voit qu'en réalité ce domaine, avec Freudenberger, il émerge dans le secteur de la santé. C'est dans cet environnement-là qu'il apparaît. Vous parliez tout à l'heure, évidemment, de la situation des urgences aujourd'hui. On voit qu'il y a là c'est dans ce domaine-là qu'il apparaît.
Oui, c'est vrai que c'est dans ce domaine-là qu'il apparaît. C'est parce que c'est aussi peut-être, je ne sais pas si c'est par hasard, c'est peut-être aussi parce que...
Moi, je dis c'est par hasard, s'il apparaît dans ce domaine-là.
Je ne sais pas si vous affirmez ou si vous questionnez.
Les deux.
je crois pas que ce soit par hasard. Je pense que c'est parce que c'est aussi un secteur dans lequel les phénomènes sont... caricaturaux par leur aspect extrême, donc extrêmement visible, que c'est un domaine qui a acquis ses lettres de noblesse relativement récemment, qui jouit encore malgré tout, même si c'est en perte de vitesse, d'un immense prestige social et d'une grande sympathie, d'un grand capital sympathie de la part du reste de la population. Maintenant, je m'interroge sans avoir de réponse, sur le lien entre apparition ou mise en évidence des phénomènes de burn-out dans des métiers du soin et des nouvelles grilles de lecture de la population et de la relation, du lien intersubjectif autour des philosophies du care, par exemple. Est-ce que ce glissement, peut-être que Pascal Chabot aura une lecture sur ce sujet, mais ce glissement entre le soin comme activité professionnelle altruiste, de prise en charge d'autrui, etc., et comme métier vocationnel, et le passage à une lecture sociologique ou philosophique de nos sociétés sous l'angle du care, peut expliquer pourquoi le burn-out en tant que pont et que pathologie de ce care-là, qui est devenu moins professionnel, j'ai envie de dire, est-ce que ce glissement-là peut être mis en évidence et peut expliquer pourquoi le burn-out est un phénomène qui nous parle tant à tous?
Eh bien, posons la question à Pascal Chabot. Est-ce que c'est ce glissement qui fait que ça nous parle à tous, ce burn-out, Pascal Chabot?
Sans doute, oui.
Vous qui êtes philosophe, je le rappelle.
Mais oui, il y a là quelque chose à penser. En effet, Freudenberger, vous l'avez dit, était médecin, travaillait à New York et a trouvé au contact des toxicomanes, qui est tout de même une des pathologies les plus difficiles à soigner, et a trouvé sur lui-même et puis autour de lui des occurrences d'épuisement que le terme de dépression ne pouvait pas expliquer. Il a écrit son premier livre en parlant des enseignants, il avait écrit son premier livre en parlant des infirmières, des médecins, des assistants sociaux. Et ainsi, il faisait écho, pas littéralement, mais on peut le reconnecter à une phrase de Freud qu'il prononçait à la fin de sa vie, dans les années 30. Avec la modernité, trois métiers sont devenus impossibles: soigner, gouverner et éduquer. Les trois métiers que Freudenberger retrouve précisément. Ce sont les trois métiers tutélaires de l'humanisme classique. Tout Platon, toute la Renaissance est pleine de soins, d'éducation et de gouvernement, évidemment. Les autres métiers étant, pour ainsi dire, périphériques. Et quand Freud et Freudenberger à sa suite montrent qu'avec la modernité, ces métiers-là sont en crise, qui sont aussi des métiers du Caire, il dit quelque chose sur notre civilisation, qui est une civilisation de plus en plus technique, dans laquelle des métiers comme le soin sont de plus en plus difficiles. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers dans lesquels le résultat parfait est, pour ainsi dire, impossible. On ne peut pas dire que quelqu'un est parfaitement soigné, ni qu'un enfant est parfaitement éduqué. Ce serait, pour ainsi dire, un monstre, un enfant parfaitement éduqué. Alors que dans une civilisation technoscientifique, la notion de résultat parfait du travail existe. Quand un ingénieur livre un pont, il dit que son pont est parfait, heureusement. Il ne dit pas qu'il a une série de défauts. Et donc, l'imaginaire contemporain est un imaginaire assez perfectionniste, technologiquement perfectionniste, qui met au centre un certain rapport au progrès, qui est le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès économique. À côté de cela, les métiers de l'humain sont des métiers dans lesquels on pense autrement le progrès. On ne parle pas de progrès utile, mais plutôt de quelque chose comme un progrès subtil, dans lequel les dimensions de sens, d'imperfection, de fragilité aussi de la nature humaine, de care donc, sont au centre. Et il semble que les modèles dominant du progrès aujourd'hui ne rendent pas suffisamment justice à la difficulté qu'ont ces métiers à se penser aujourd'hui et à la difficulté que l'enseignement, l'éducation, le soin ont à se, et le gouvernement sûrement ont à se penser aussi. Donc il y a moyen de faire du burn-out le révélateur d'une société qui mise tout ou presque tout sur des aspects matériels, scientifiques, techniques et économiques et qui doit repenser le progrès humain finalement.
Philippe Zavieja, est-ce que c'est trois secteurs évoqués par Pascal Chabot, c'est-à-dire le soin, l'éducation et la gouvernance, sont des secteurs où, effectivement, quand on regarde les études scientifiques, il y a plus de burn-out. Est-ce que ça résiste à l'épreuve des faits ?
Oui. Oui. Alors la gouvernance, en prenant le terme au sens large, c'est-à-dire que longtemps, alors je répondrai même pas tellement c'est évident, pardon, mais sur le soin et l'éducation, tellement c'est évident. Sur la gouvernance, longtemps le burn-out a été pensé comme une maladie du cadre, et notamment du cadre dynamique, etc. On avait pendant les années 70 cette image du stress, du surmenage, on n'appelait pas ça encore burn-out, autour du syndrome du YUPI, du Young Urban, je ne sais plus quel était le sigle développé de YUPI, qui était le jeune cadre dynamique, battant, etc. Aujourd'hui, on est plutôt sur une répartition sociologique un peu différente différente du burn-out, où ce sont plutôt, dans mon expérience, les métiers de première ligne. Dans l'hôpital, c'est plutôt l'aide-soignante que le médecin-chef qui est en burn-out. Plus fréquemment. Or, ce sont des métiers sur lesquels on s'est un peu moins par le passé penché et qu'on explore davantage aujourd'hui, qui sont beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup plus dans un hôpital d'aide-soignante que de médecin-chef, par définition. Aujourd'hui, on est, à mon sens, sur le burn-out, moins sur une maladie de cadre, alors qu'on incrimine le management, que sur une maladie de l'exécution. Je dis moi-même maladie, je me contredis moi-même dans la terminologie.
Oui, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas relevé, mais...
Mais vous auriez dû, mais à coup le pas.
Est-ce que, je poursuis un petit peu avec vous, Philippe-Xavier Jat, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un phénomène, puisque c'est pas une maladie, mais qui se répand, le burn-out? Quand on regarde un peu le tableau global, Pascal Chabot a écrit un ouvrage qui s'appelle Global Burnout, est-ce qu'effectivement c'est un phénomène global et qui se développe à mesure que le monde se globalise précisément?
Alors, oui, mais n'en tirons pas des conclusions fausses. C'est un phénomène qui semble relativement inhérent au mode de développement capitaliste, techno-industriel, enfin tout ce qu'a rappelé Pascal Chabot tout à l'heure, dans la mesure où la seule voie de développement qui semble aujourd'hui possible soit cette voie de développement capitaliste techno-industriel, y compris dans les pays de l'ancien bloc communiste, forcément le symptôme pathologique de ce mode de développement se répand worldwide. Ceci dit, il faut aussi considérer le burn-out comme ce que les psychiatres, et notamment les ethnopsychiatres, appellent un syndrome culturel, c'est-à-dire un ensemble de tableaux cliniques qui est extrêmement imprégné de données anthropologiques plus profondes. C'est aussi un symptôme qui est très lié à l'Occident. Il y a d'autres façons de manifester des épuisements dans des contextes anthropologiques qui sont très différents. On va parler de la Corée du Sud tout à l'heure. Vous avez évoqué le karoshi pour le Japon en ouverture, qui sont liés à l'acceptabilité sociale, au rôle social du travail pour l'individu comme facteur d'intégration ou de désintégration, et qui imprègne aussi la façon dont on va manifester cliniquement cette pathologie du lien au travail. Alors, on meurt au travail au Japon, parce qu'on passe énormément de temps sur son lieu de travail. C'est vrai, le karoshi peut être comparé au burn-out, et pourtant ça n'en est pas un. On meurt sur son lieu de travail, c'est important de le dire. Le burn-out, c'est pas toujours ça. On ne meurt pas forcément sur son lieu de travail.
Même si ça peut arriver.
C'est une mort naturelle.
On le voit en ce moment avec le procès de France Télécom. Absolument. Il y a quand même eu beaucoup de suicides.
Alors, c'est pourquoi je vous le disais. C'est une mort naturelle, ce n'est pas une mort par suicide sur son lieu de travail, ce qui nous différencie du cas occidental. C'est une mort qui, en général, est liée soit à un AVC, un accident vasculaire cérébral, soit à un infarctus du myocarde, donc une mort brutale liée au stress. On est d'accord, c'est lié au stress dans les deux cas.
Pascal Chabot, c'est intéressant ce qu'on dit là, parce que ce que disait Philippe-Xavier Jat à l'instant, parce qu'on voit bien que quand on regarde un petit peu les contextes, il y a peut-être une dimension économique, c'est-à-dire qu'en fonction de la nature même de l'économie dont il est question, eh bien effectivement, peut-être certaines sont plus exposées que d'autres à ce phénomène de burn-out, mais aussi il y a des questions, nous dit Philippe-Xavier Jat, des questions d'ordre vraiment anthropologique, d'ordre presque culturel, comme si d'une certaine manière, certaines cultures étaient plus exposée, elle aussi, Pascal Chabot, à ce phénomène du burn-out.
Oui, sûrement. Il y a un noyau commun et des différenciations culturelles. Le noyau commun, c'est celui de l'occidentalisation. C'est Paul Valéry, en 1919, qui disait « Partout où l'esprit européen domine, on voit apparaître le maximum de besoins, le maximum de satisfaction, le maximum de consommation, le maximum de production, etc. Et le chiffre de ces maxima, c'est l'Europe. » En 19, il avait raison. Et puis, plus tard, on a vu que cette maximalisation, c'est mondialisé, et peut-être que la mondialisation et la globalisation de ce désir et de ce besoin des maxima qui se retrouvent en Chine comme au Japon comme en Europe. Cela c'est un invariant, disons, sur lequel des variations culturelles très importantes existent. Par exemple, une culture occidentale qui est une culture qui a toujours été critique et envers le travail également. On connaît toutes les chansons sur les mises en cause du travail et le fait que ce n'est peut-être pas là qu'est le plus grand bonheur possible. En tout cas, prenez un dictionnaire des citations sur le travail et c'est un florilège de suspicion, disons, que dans certaines cultures, par exemple celle d'Asie imprégnée par le confucianisme et donc par un esprit de dévouement et donc par un esprit perfectionniste, on retrouve moins. Il y a dans dans les cultures confucianistes, un accent mis sur la réalisation de soi par et dans le travail uniquement, avec une très très grande valorisation du dévouement que la France, la Belgique ou d'autres pays ont tout de même moins. Par rapport à cela, je pense que nos cultures font preuve de quelque chose qui peut être plus équilibré et donc plus résilient. Il faudrait aussi voir dans d'autres pays, il faudrait voir en Amérique du Sud, aux États-Unis, qui est une ère culturelle dans laquelle les vacances, par exemple, sont tout de même beaucoup beaucoup moins importantes, beaucoup moins présentes qu'en Europe. Il y a beaucoup moins de jours de congés aux États-Unis qu'en Belgique. Donc, à ma connaissance, l'étude comparée des anthropologies n'a pas été faite sur cette question. À ma connaissance, je me trompe peut-être, même probablement, mais je l'ai pas lu. Mais elle serait passionnante pour voir comment finalement ces impacts de la mondialisation sont vécus et amortis par des différences culturelles ou exacerbées.
Sur cette étude comparative, justement, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous en savez, Philippe Xavier Jarre? On va s'intéresser dans un instant à la Corée du Sud, mais...
On a très très peu de choses. Moi, les seules études interculturelles dont j'ai connaissance comparent en gros les taux de burn-out dans des populations qu'on va dire dominées. Donc en gros des populations hispaniques ou afro-américaines en Amérique. On a aussi quelques études sur je crois que c'était des aides-soignantes palestiniennes de nationalité israélienne en Israël. Donc souvent les populations dominées ont des taux de burn-out supérieurs. Ceci dit, elles sont bien étudiées dans le cadre d'une domination et donc on n'a pas l'explication anthropologique des choses. Et il serait trop facile de tirer des interprétations anthropologiques des différences de religion, etc. là-dessus. À ma connaissance, il y a peu de choses, non? Et c'est plutôt du côté de l'ethnopsychiatrie, mais qui ne s'est pas encore, à ma connaissance, je le répète, intéressé au burn-out, qu'il faudrait se tourner.
Eh ben, on va faire un peu cette étude comparative, puisqu'on va aller du côté, justement, nous, de la Corée du Sud. On est avec vous, Pascal Chabot, et vous, Philippe Xavier Jarre. Travail, les nouvelles conditions, c'est notre série cette semaine. Le burn-out, le mal du siècle, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, 11h37, justement, direction la Corée du Sud.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il me surveillait toute la journée, et je devais même faire un rapport sur combien de fois j'allais aux toilettes par jour. À chaque fois que mon supérieur m'humiliait, j'avais envie de m'immoler par le feu et de mourir devant lui.
En Corée du Sud, les gens riches et puissants pensent que les gens d'une classe inférieure ne dépendent pas seulement d'eux économiquement, mais qu'ils peuvent aussi les dominer.
Quand mes supérieurs tenaient des propos sexuels ou avaient des gestes déplacés, au début j'étais déconcertée. J'en ai parlé aux plus anciennes de l'entreprise et elles disaient que c'était normal. C'est la routine.
Il y a des cas qui ne sont pas encore reconnus par la loi. Donc, ils sont compliqués à traiter. Le ministère du Travail pourrait régler les choses, mais il n'est pas très actif sur ce dossier.
Voilà, extrait d'un reportage sur le gabegie, l'abus de pouvoir et le harcèlement au travail, extrait d'un reportage de France 24 qui a été diffusé en avril dernier. Quand on regarde l'état de la Corée du Sud, c'est le pays où les niveaux de suicide sont les plus élevés des membres de l'OCDE. Il y a d'importants problèmes d'alcoolisme, la fécondité y est la plus faible au monde, 1,2 enfants par femme. Bref, la Corée du Sud, c'est l'archétype du pays burn-outé, si je puis dire. Il faut dire que c'est un pays où l'on travaille énormément, beaucoup plus que la moyenne des pays développés. Alors, comment le gouvernement répond à cette crise du travail? Est-ce qu'on se dirige vers la fin peut-être d'une culture obsessionnelle du travail? On parlait de culture tout à l'heure. Et d'ailleurs, d'où vient-elle cette culture du travail acharné? Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, une spécialiste de la péninsule coréenne et puis rédactrice en chef adjointe d'Asialiste. L'année dernière, Juliette Morillo, le président Moon Jae-in a décidé de rabaisser les heures de travail hebdomadaires qui sont passées de 68 heures à 52 heures, même si dans certains secteurs, on parlait tout à l'heure de la santé par exemple, c'est le cas pour la santé, pour les transports, on peut s'affranchir de cette réduction. Mais comment est-ce qu'il faut interpréter cette évolution? Et est-ce qu'il faut y voir, est-ce que vous y voyez une rupture dans la manière dont justement le gouvernement sud-coréen gère cette question du surmenage, du burn-out?
Alors le surmenage fait actuellement en effet l'objet d'une véritable réflexion au niveau social et gouvernemental en Corée du Sud. Et le gouvernement, le nouveau gouvernement, dirais-je, de Moon Jae-in, qui est au pouvoir depuis 2 ans, en a fait véritablement un des fers de lance de sa politique sociale. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un mot qui revient sans arrêt en Corée du Sud. Maintenant, c'est le « wo-la-bae ». C'est une sorte de mot-valise pour « work-life balance », c'est-à-dire trouver un équilibre entre la vie privée, son succès, et puis le succès au travail. Et en effet, le président sud-coréen a réduit, vous l'avez dit, le nombre d'heures de travail de 68 à 52 heures. Ça, c'était en février dernier. Il a également, et c'est là que ça devient quand même assez extraordinaire, il essaye d'imposer que les Sud-Coréens prennent le nombre de jours de vacances qui leur est alloué, c'est-à-dire que 30 à 33% des Sud-Coréens ne prennent pas la moitié de leur congé. C'est-à-dire, normalement, ils ont 14 jours de congé, ils n'en prennent même pas 5 à 6. Donc, le gouvernement veut imposer qu'ils prennent 12 jours de vacances. Il y a une véritable opération de communication de la part du président sud-coréen qui maintenant se met en scène pendant ses vacances de façon à inciter les Coréens aussi à faire la même chose parce que c'était très très mal vu. Mmh. Alors on voit par exemple que dans les librairies, l'équivalent de la FNAC locale, le Kyobo Mungo, on voit un nombre de livres incroyables qui incitent les gens à démissionner. Il y a également démissionner pour profiter de la vie, ne plus échapper à la chape en fait sociale. Il y a des chansons également. Il y a un groupe qui s'appelle Colavo qui a fait un hit en Corée, c'est un groupe de rock qui s'appelle justement Wo-la-bae, Work-Life Balance, où il dénonce l'enfer de la vie en Corée, c'est-à-dire je ne veux plus travailler des heures supplémentaires. On avait plus d'une heure à deux heures supplémentaires par jour par Coréen en Corée du Sud. Ils veulent simplement trouver un but à leur vie un petit peu différent. Donc il y a une véritable prise de conscience, j'insiste, à la fois au niveau social, mais aussi au niveau gouvernemental.
Et puis peut-être, j'ajoute, si je peux me permettre, Juliette Morillo, la dimension purement économique, parce que si évidemment, vous l'avez dit, le président se met en scène pour pousser les Sud-Coréens à prendre leurs vacances, il y a aussi dans ce choix de diminuer le nombre d'heures hebdomadaires, il y a aussi des raisons purement économiques, c'est-à-dire que la Corée du Sud est aussi dans une situation de ralentissement économique, et il y a un certain nombre d'études, en tout cas sud-coréennes, qui ont montré que ce passage aux 52 heures pourrait avoir un effet d'entraînement et créer un certain nombre d'emplois. C'est assez chiffré, on parle de 600 000, 700 000 postes, donc il y a aussi une dimension, j'allais dire, macroéconomique dans tout cela. Si on revient, Juliette Morillo, sur peut-être ce rapport au travail, on sent que quelque chose est en train de se passer du côté de la Corée du Sud et que d'une certaine manière, on n'accepte plus de se sacrifier totalement à son travail. À quand ça remonte, ça, Juliette Morillo? C'est tout récent ou est-ce que... Enfin, c'est quel moment qu'il y a ce basculement, justement, et où on a pris conscience de tout cela et où on refuse maintenant, désormais, de se sacrifier pour son travail?
Alors, avant de répondre à cette question, j'ajouterai un tout petit point. C'est que ce travail extrême des Sud-Coréens, paradoxalement, ne garantit pas une meilleure productivité pour chaque heure travaillée. Mmh. Et la Corée du Sud, même si elle travaille tellement jusqu'au burn-out, n'est pas en meilleure place dans l'OCDE, dans les pays de l'OCDE pour la productivité. Alors revenons à votre question et je reviendrai même à ce qui était dit tout à l'heure. Je crois que c'est votre invité Pascal Chabot qui expliquait que le confucianisme valorisait justement le travail. Mais pour une fois, je pense que ce confucianisme, au contraire en Corée du Sud, est à l'origine justement du burn-out. Alors il faut dire, là il faut faire un tout petit retour historique pour trouver les racines de l'importance du travail en Corée du Sud. La Corée du Sud est une société qui était marquée par la guerre et par la guerre de Corée. Et au lendemain de la guerre, les gouvernements successifs, c'était des dictatures jusque dans les années 90, ont demandé des sacrifices énormes à la population pour passer d'un État qui était presque un État du tiers-monde totalement détruit au lendemain de la guerre de Corée à au dragon qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le miracle économique, le fameux miracle de la rivière Han. Et pour imposer donc, dans cette sorte d'état d'urgence que tout le monde a accepté parce qu'il fallait absolument s'en tirer, le gouvernement s'est appuyé sur les structures confucéennes de la société. Alors, le confucianisme impose, implique une obéissance, un respect aveugle à l'autorité au supérieur et de travailler pour l'intérêt du groupe. Alors, ce qui a en quelque sorte fait le succès économique de la Corée du Sud, aujourd'hui, est justement une sorte de carcan dont les Sud-Coréens essayent de se défaire aujourd'hui. C'est pour ça que ce à quoi le président sud-coréen s'affronte, ce qu'il essaye d'attaquer, c'est-à-dire en réduisant le nombre d'heures de travail, en parlant de vacances, mais il s'attaque en fait à la pointe de l'iceberg, parce que en dessous vous avez le bloc de l'iceberg qui est monstrueux, qui est ce confucianisme. Et là je rappelle le petit extrait que vous avez passé sur le captil. Le captil, en fait, c'est toutes les formes de harcèlement au travail, mais également social, des harcèlements sociaux parce que c'est une société de classe, et également le harcèlement sexuel contre les femmes.
Alors justement, Juliette Morillot, vous le dites, on comprend très bien, il n'est pas seulement question de baisser le volume horaire. Ce qu'il y a derrière ce burn-out en Corée du Sud, c'est aussi, j'allais dire, ce management confucéen, c'est aussi ce modèle confucéen qui est au fond à l'origine de tout ça. Alors, que fait le gouvernement pour ça en particulier? Et puis ensuite, on fera réagir nos invités. Est-ce qu'il s'attaque précisément à ce modèle confucéen et à cette manière de penser un management confucéen? Pardonnez-moi, je mets ça entre guillemets.
Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est paradoxal. Le groupe, le « nous » est toujours plus important que le « je » en Corée. On dit notre père, notre société, notre pays. Et la façon dont il a de s'attaquer à ça, c'est notamment, alors vous avez l'école, je ne sais pas si j'en parlais tout à l'heure, School of Life du Suisse Alain de Botton, qui est très très à la mode en Corée. On crée par exemple aussi des stages extrêmement surprenants. Vous avez des stages qui sont payés par l'entreprise, qui sont des stages où on se retrouve dans une sorte de prison, seul face à soi-même, pour essayer de retrouver confiance en soi. Et vous avez certaines entreprises, les fameux chaebol, les fameux gros groupes coréens, qui essayent d'encourager l'individualisation. C'est-à-dire qu'en fait, la société coréenne est une société de groupe qui n'a pas eu le temps de digérer rapidement l'occidentalisation et le fait que l'individu devient important. Donc l'individu se retrouve isolé avec une charge de travail qui l'écrase comme une chape. Il ne peut pas y échapper puisque ça touche à la fois la sphère de travail mais aussi la sphère privée, puisqu'on est censé passer ses vacances avec le voisin, puisqu'on est censé se plier au groupe. Donc en fait, on essaye de plus en plus au sein des entreprises de valoriser, avec l'aide du gouvernement, ces stages, en quelque sorte, d'individualisation.
On fait quand même des choses. Vous restez avec nous, Juliette Morillot. Je vais faire intervenir nos deux invités. D'abord, on va partir du côté de Bruxelles, et ensuite, on reviendra ici à Paris. Pascal Chabot, réaction sur cet exemple sud-coréen.
Mais il est vrai que, et cela a été bien dit, la culture est en jeu dans le rapport au travail. C'est un construit social, véritablement, le rapport au travail. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire donc qu'il y a des couches de fond qui doivent bouger pour qu'il y ait une amélioration. Ce qui n'est pas évident, mais ce ce qui montre aussi qu'il n'y a pas de fatalisme. Les mentalités évoluent, les cultures évoluent, et à partir du moment où une certaine culture du travail est en procès, cela veut dire qu'on peut poser la question positive, celle-là, de la qualité de vie au travail. Ce n'est pas toujours possible. Ouais. Et il y a de nombreux pays aujourd'hui où ce serait incriminé, pour ainsi dire socialement, voire politiquement, que de poser cette question qui fâche, la question de la qualité de vie au travail, que en France, on pose très volontiers, ce qui est le signe d'une société avancée qui a aussi toute une histoire et de productivité et de justice sociale. C'est vraiment la question de la qualité de vie au travail qu'il faut mettre en avant, et d'une certaine façon, la meilleure prévention du burn-out est une interrogation constructive sur cette qualité de vie. Votre invité l'a très 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 bien dit, il y a des racines culturelles, mais il y a aussi quelque chose comme une accélération d'une industrialisation depuis 1960-1965 qui fait que les strates de montée en puissance se sont accumulées extrêmement vite, avec un problème lié à l'individu, parce que finalement c'est toujours l'individu qui est capable de dire ce qu'il en est pour lui de l'équilibre. Nous ne sommes pas égaux devant le stress, les cerveaux ne sont pas égaux, les corps ne sont pas égaux. Il y en a certains pour qui 6 heures de sommeil suffisent, et d'autres qui se délectent, qui ont besoin de 10 heures ou 12 heures.
Oui, bien sûr, il y a des inégalités. Philippe Zaviéja, vous voulez réagir sur la Corée du Sud?
Oui, par analogie, Pascal Chabot vient de me faire une transition intéressante. En écoutant Juliette Morillo, j'oserais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais cette construction du modèle coréen après-guerre, ce sens du sacrifice qu'on a demandé aux travailleurs coréens, moi m'évoque cette nostalgie qu'on voit poindre depuis quelques mois sur l'ère Pompidou, qui a ici en France, qui a correspondu en fait à la fin de nos Trente Glorieuses, avec un État capitaine d'industrie qui s'est révélé dynamique, entreprenant, etc. Ce qui a correspondu avec la fin de cette période d'expansion qu'on a tous dans l'imaginaire collectif, je pense encore en tête, où on pouvait résoudre des situations d'insatisfaction au travail en s'appuyant sur les forces et les faiblesses du marché du travail. On pouvait demander une augmentation de salaire, ce qui était la façon, et l'obtenir assez facilement, ou une prime, en tout cas une compensation financière, plus facilement que ce qu'on peut faire aujourd'hui. On pouvait changer de job parce que démissionner n'était pas se condamner à rester sur le carreau, parce qu'il y avait un moindre chômage. On pouvait espérer encore en une promotion. Tout ça, ce sont des mécanismes d'insatisfaction au travail qui sont complètement grippés aujourd'hui par la chronicisation de la crise et qui nous conduisent à nous enquister en vérité dans des situations d'insatisfaction au travail. Et on en voit bien le résultat.
L'embouteillage sur Rivoli, cet accident place d'Italie, les manifestations le samedi, pourquoi j'aime encore Paris ? Aux galeries, les terrasses toujours envahies, les crottes par terre jour et nuit. Pourquoi j'aime encore Paris? Le vélo en...
Merci beaucoup à Juliette Morillo qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappellerai vous concernant que vous êtes co-auteur avec Dorian Malovic du Monde selon Kim Jong-un, qui est paru chez Robert Laffont. Vous êtes une spécialiste de la péninsule coréenne. Un grand merci également à nos invités ici à Paris, Philippe Zaviéja. Merci d'avoir été avec nous. Je rappellerai le dictionnaire de la fatigue, mais aussi le burn-out. On mettra toutes les références évidemment de vos ouvrages sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Je remercie également Pascal Chabot qui était avec nous en duplex de Bruxelles. Global Burnout qui était paru au PUF également, Exister, résister, ce qui dépend de nous, etc., etc. Beaucoup de livres, on les met également sur la page de Culture Monde, et je remercie beaucoup les techniciens qui ont permis de faire le duplex de Bruxelles jusqu'à nous. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et un nouveau volume qui vient de paraître dans la collection Le Bien Commun. Il est consacré à un auteur, économiste, philosophe sur lequel vous souhaitez attirer notre attention ce matin.
Oui, il faut vraiment recommander aux auditeurs cette collection publiée chez Michalon, Le Bien Commun. Au départ, son directeur, notre confrère de France Culture, Antoine Garapon, lui avait donné pour objectif de résumer l'œuvre des grands penseurs du droit. Mais petit à petit, l'ambition de la collection s'est élargie. Et elle vous livre à présent, en de brefs volumes de 125 pages, l'essentiel de ce qu'il faut savoir de la pensée de nombre de grands auteurs de la philosophie politique. Or, vient de paraître, au Bien Commun, un résumé très recommandable de la pensée de Friedrich Hayek, dû à un spécialiste de ce qu'on appelle l'école autrichienne, Thierry Aymar. Cet auteur, je signale, a été le 14 mai l'un des invités de l'émission Entendez-vous l'écho, notre émission de France Culture consacrée à l'économie, présentée tous les jours de semaine entre 14 et 15 heures par Tiffaine de Roquigny. Mais commençons par un détour par Adam Smith. Celui-ci doit sa gloire, on le sait, à son livre de 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Mais l'économie était alors encore loin d'être constituée en discipline universitaire. Les matières qu'Adam Smith a enseigné dans sa jeunesse à l'université de Glasgow ont été successivement la logique et la philosophie morale. Et l'ouvrage de sa plume qu'il considérait comme le plus important, c'était sa théorie des sentiments moraux publiée en 1759. Alors il est frappant de constater que son lointain successeur Friedrich Hayek, penseur libéral et global comme Adam Smith, ait réellement entamé sa carrière d'économiste par un livre de psychologie qui s'appelait « L'ordre sensoriel » qu'il a publié en 1952. C'est comme si ces deux grands économistes avaient éprouvé le besoin de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain afin de pouvoir développer leurs hypothèses concernant les mécanismes de l'échange. Mais Adam Smith explore ce qu'il appelle « l'homme intérieur », capable selon lui de juger impartialement la valeur morale de ses propres actes et de s'identifier aux autres, au point de partager en partie leurs sentiments, alors que Friedrich Hayek, lui, met en évidence tout ce que le sujet ignore de lui-même, ce qu'il appelle la carte présensorielle. Une bonne part de nos processus mentaux demeure inconscient, dit-il, et les neurosciences l'ont depuis confirmé. Hayek nous invite à prendre conscience de nos propres limites à cet égard.
Et ses positions dans le domaine de l'économie politique, Brice, sont inspirées par la même prudence.
Eh oui, si nous ne pouvons appréhender qu'une partie émergée des motifs qui nous déterminent à agir, comment une quelconque autorité pourrait-elle prétendre connaître les buts poursuivis par tous les individus composant une société afin de les harmoniser entre eux ? Il y a là une présomption fatale, pour reprendre le titre d'un de ses livres. Oui, la grande idée de Friedrich Hayek, c'est qu'aucun cerveau humain, ni aucune institution, ne sont capables d'intégrer la totalité des besoins, des préférences et des désirs des individus composant des ensembles sociaux aussi complexes que nos nations modernes. D'autant que dans ces sociétés, comme l'écrit Hayek, je le cite, « il a été donné aux hommes un sens tout nouveau de leur pouvoir sur leur propre destin ». Oui, la société libérale est en effet fondée sur la possibilité donnée aux individus d'échapper à des systèmes rigidement hiérarchiques où la place dans la société, le rang, était définie a priori, où, je cite, « des liens traditionnels et obligatoires entravaient l'activité quotidienne ». Oui, les énergies ont été libérées et dans ces conditions, prétendre organiser la production et la distribution des biens de manière rationnelle et centralisée, comme en rêvent les socialistes depuis Auguste Comte, est une dangereuse illusion. Pour citer Thierry Aymar, il est impossible de réguler par le haut une société multiple composée d'individus subjectifs. Pire, une société dirigée, c'est une société limitée aux valeurs et aux capacités cognitives de ceux qui la dirigent. Le résultat est une perte d'efficacité d'ensemble. Fin de citation. L'ennemi numéro un de Hayek, c'est ce qu'il appelle le constructivisme. Et il le voit pleinement à l'œuvre, tant du côté du fascisme que du communisme. Mais nos sociétés soi-disant libérales y sont également partiellement engagées, selon lui. Alors pour lui, le meilleur ajustement possible entre les activités économiques est obtenu par la concurrence entre les acteurs et non par les décisions souveraines d'une autorité surplombante. Mais attention, pour fonctionner, la concurrence doit s'appuyer sur des institutions organisatrices, la monnaie, les marchés, etc. Et surtout un cadre légal adéquat qui protège la propriété et rend les propriétaires responsables des dégâts éventuels causés à autrui. En outre, je cite Hayek, il faut faire intervenir l'autorité chaque fois qu'il est impossible de faire fonctionner la concurrence, car la tendance spontanée du capitalisme favorise précisément la constitution de monopole. Alors certes, des ordres construits sont nécessaires, convient Hayek, par exemple l'ordre politique, mais dans le domaine économique, il faut laisser prospérer l'ordre spontané du marché, parce que c'est une force impersonnelle et anonyme. L'État, pour demeurer impartial, doit se contenter de fixer par la loi des règles générales. Elles serviront de cadre à l'action des individus qui y inscriront leurs projets particuliers.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.